bienvenue dans notre podcast dédié aux entrepreneurs et aux startups. Aujourd'hui, nous allons explorer un pilier fondamental de la réussite, la communication. Dans un monde où chaque message peut façonner l'image d'une entreprise, maîtriser l'art de communiquer n'est pas seulement un atout, c'est une nécessité. Que ce soit pour se faire connaître, pour attirer des investisseurs ou des talents, pour convaincre ou fidéliser des clients, une communication efficace est le moteur de la crédibilité et de la croissance. Et derrière chaque message, il y a un savoir-faire, celui de transformer une vision en récit captivant, celui de bâtir une image cohérente et puissante. Merci de nous avoir rejoints pour découvrir avec Stéphane Post, consultant en communication chez Dynamics Group, ancien journaliste, expert en stratégie d'image et relations presse, comment faire de la communication un levier de succès pour votre start-up et transformer chaque opportunité en succès durable. Bonjour Stéphane Post.
Bonjour Benoît.
Qui êtes-vous ?
Vous avez dit l'essentiel, c'est-à-dire effectivement ancien journaliste formé ici à côté, à Lausanne, au centre de formation des journalistes. Mais j'ai été chercheur aussi, comme vous, parce que j'ai fait une formation à la faculté des sciences à Genève, puis après je suis parti en biologie, puis après je suis parti aux États-Unis dans un centre de recherche. Et puis j'ai vu les limites du système, et puis je me suis dit, vaut mieux écrire et vaut mieux faire de la com. Donc je suis parti dans le journalisme. Et puis du journalisme, je dirais, les frontières sont assez ténues avec la communication. Donc une grande entreprise suisse est venue me chercher pour gérer sa com. Et puis depuis, j'ai rejoint le groupe Dynamics Group, qui est une des principales agences de com en Suisse, hein, qui est présente à Genève, Lausanne, Zurich, Bâle, Berne. Donc désormais, on est passé du côté obscur de la force.
Et comment devient-on un spécialiste en communication ?
On devient déjà en s'intéressant à tous les sujets d'actualité, puisqu'on a pu constater en étant de l'autre côté de la barrière. Avant d'être, j'ai été journaliste pendant quelques années et j'ai vu les lacunes des gens en termes d'expression, que ce soit les porte-parole, les CEO, etc., qui avaient quand même quelques soucis pour faire passer les messages avec un fond qui était souvent un fond magnifique. Mais en termes de forme, les éléments de langage, comme on les appelle chez nous, n'étaient pas du tout adaptés. Et puis surtout, l'attitude personnelle, parce que c'est bien d'avoir un bon produit, mais si on ne sait pas le vendre et si on ne sait pas le raconter, ça ne va pas très loin.
Aujourd'hui, on a la chance de vous avoir, mais votre métier, ça consiste en quoi ?
Alors, notre métier, ça consiste à comme un coach sportif, en fait, comme un entraîneur des plus hauts sportifs.
Et vous faites aussi de l'accompagnement sportif ?
Et on fait beaucoup d'accompagnement sportif aussi. Et on accompagne de grands événements sportifs aussi. On intervient comme une espèce de coach. On fait du media training ou du speaker training, ce genre de choses-là. Donc, on apprend aux gens, parce que ce n'est pas inné, de s'exprimer devant d'autres personnes, que ce soit en petit comité ou devant une grande audience. Voilà, c'est quelque chose qui mérite un entraînement et c'est là qu'on intervient. Et surtout pour faire en sorte que les messages soient les bons, pour qu'on évite de partir dans des récits qui soient ennuyeux et puis qui n'aient pas la forme et l'impact émotionnel qu'on veut faire passer auprès de son audience, comme vous l'avez dit, quelle qu'elle soit, hein, que ce soit les investisseurs, que ce soit les futurs collaborateurs, que ce soit les journalistes, ou que ce soit votre futur fiancé.
Un mot que vous avez laissé tomber, ou en tout cas que vous avez largement exprimé, c'est la cohérence dans le message. Et on va peut-être commencer par essayer de comprendre. On a avec la chance d'avoir avec nous des start-upers, des entrepreneurs, des personnes qui sont impliquées dans le monde entrepreneurial. Comment fait-on la différence entre l'entrepreneur et la société ? Puisqu'en fait, souvent, c'est l'entrepreneur qui incarne cette société.
Alors, c'est justement, l'incarnation est hyper importante, mais l'entrepreneur doit se considérer comme un guide et non pas comme une star, quoi. C'est ça la différence qui est importante. C'est-à-dire que
lui, mais est-ce qu'il doit s'incarner lui-même ou il doit incarner sa société ?
Il doit d'abord faire passer et partager la conviction qu'il a dans l'histoire qu'il va raconter. Parce qu'on est trop souvent confronté à des gens où il n'y a pas le niveau d'énergie suffisante dans leur conviction pour raconter une histoire. Parce que ce que l'investisseur va devoir entendre, ce n'est souvent pas des spécialistes des produits que vous faites. Donc il va falloir qu'il adhère à l'histoire que vous allez lui raconter en quelques minutes. Ça, c'est important. Le format aussi est très important. Mais il faut qu'il soit, voilà, faut qu'il adhère, faut qu'il ait envie de rentrer dans votre histoire que vous allez raconter. Donc, il ne s'agit pas de décrire technologiquement votre innovation, etc., en commençant votre discours, mais qu'il ait envie, par rapport au storytelling que vous allez faire, de rentrer dans ce que vous allez raconter, quoi. Et ça, ça ne se fait pas tout seul. Vous pensez souvent que vous maîtrisez totalement votre sujet, mais quand vous êtes face à des investisseurs, des gens qui ont peu de temps à vous consacrer, etc., qu'il faut convaincre, l'important, c'est de créer tout de suite l'émotion pour qu'ils rentrent dans votre histoire.
Ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'une personne qui n'est pas charismatique ne pourra pas être entrepreneur.
Alors non. Non, parce qu'il nous est arrivé de transformer des gens qui n'étaient pas charismatiques en très bons conteurs, en très bons vendeurs. Donc, c'est pas qu'une question de charisme. Le charisme de départ peut être un atout important, mais il n'y a pas que ça. Il y a la façon aussi dont on va convaincre et partager. Moi, j'ai vu des gens très simples, sans charisme, être capables de partager une idée forte, être capable de partager une belle histoire.
Vous parlez beaucoup de charisme, vous parlez beaucoup de cohérence, vous parlez également du fait qu'on peut transformer une personne, mais comment est-ce que cela peut se faire ?
Ça peut se faire avec beaucoup de travail. Si on part sur quelqu'un qui n'a pas, je veux dire, tout le monde n'est pas Bernard Tapie, tout le monde n'est pas de ces grands entrepreneurs qui avaient ce sens de la communication innée pour raconter des histoires, en attrapant l'audience avec eux. Donc c'est vraiment, c'est comme je dis tout à l'heure, c'est un entraînement qu'il faut faire. Donc on passe beaucoup de temps avec nos clients, quels qu'ils soient, que ce soit des startups ou des grands patrons d'entreprises historiques, à les préparer à ça. Et donc c'est des moments qui ne sont pas toujours faciles pour eux, parce qu'il faut qu'ils posent leur trip sur la table. Donc, généralement, ils nous disent, ils font sortir leur directeur, leur cadre, leur bras droit, tout ça. Et on se retrouve seul avec eux, vraiment, parce que c'est un travail qui est très personnel, qui demande de faire une remise en cause aussi, souvent, intime, de la façon dont ils s'expriment, dont ils ressentent les choses et avec lesquelles ils les partagent. Donc, c'est cette préparation qui est essentielle.
Dans votre langage, vous utilisez souvent le mot « vendeur ». Qui peut avoir une connotation qui est très négative, où en gros on est en train de faire du overselling. Comment est-ce que vous faites la différence ou la part des choses entre vendre quelque chose qui existe, vendre quelque chose qui va exister, ce qui est souvent le propre des startups, puisqu'en fait c'est un long processus. Est-ce que c'est vraiment de la vente que l'on fait ou est-ce que c'est de la conviction que l'on doit passer ?
Deuxième solution. C'est de la conviction qu'on doit passer, c'est pas... La vente va être implicite à la conviction que vous allez partager et à l'histoire que vous allez raconter. Ça va se faire tout seul. Si les gens arrivent à rentrer dans votre histoire par rapport aux observations, par rapport aux lacunes que vous avez pu conserver dans certains domaines, et parce que vous allez amener une solution qui apporte justement des réponses à cette lacune, alors là, vous allez être convaincant. Il ne s'agit pas d'être directement vendeur. Vous n'avez pas une voiture à vendre comme tous nos amis commerciaux qui font ça. Mais par contre, vous avez une histoire à raconter qui vous amènera de toute façon à convaincre vos interlocuteurs d'être intéressés par votre produit. Donc, ce n'est pas une démarche de vendeur. C'est une démarche de conteur.
Quand vous parlez de storytelling, quelle est la part de la conviction personnelle, du vécu personnel qui peut être mise à disposition de la société ? Il y a des gens qui viennent avec un discours qui est très personnel. Par exemple, ma grand-maman a eu un problème de ceci et cela, on les connaît, ces discours. Est-ce que cette part personnelle apporte quelque chose, apporte de la valeur ? Est-ce qu'elle s'adresse vraiment à générer de l'émotion et cette émotion est vendeuse ? Ou comment est-ce que vous le voyez ?
Oui. L'émotion est extrêmement vendeuse et si vous pouvez rattacher justement ce storytelling à votre histoire personnelle, mais avec un seul fil rouge qui doit être essentiel pour vous, c'est l'authenticité, quoi. Parce que souvent en face de vous, vous allez avoir des gens qui vont déceler si vous êtes crédible ou pas, si vous êtes authentique ou pas, si vous êtes sincère ou pas. Ça se ressent, ça se ressentira aussi par votre body language. Et ça, on travaille aussi là-dessus. Il faut faire attention au regard qu'on accorde aux autres, à l'attitude qu'on peut avoir. Il ne s'agit pas d'être avachi dans sa chaise, ce genre de choses. Mais pour répondre plus précisément à votre question, ça tient essentiellement à l'authenticité du discours que vous allez servir. Et si ça s'est enrichi par votre parcours personnel, par ce que vous avez pu observer et qui vous a motivé à aller dans telle ou telle démarche de ce que vous faites, ça donnera beaucoup plus d'ampleur à votre discours, oui.
et donc de partager une partie de son expérience personnelle, voire de sa vie personnelle, vous le voyez comme un avantage.
C'est un énorme avantage.
Alors qu'il y a certaines personnes qui font preuve d'humilité ou qui font preuve de distance ou qui séparent le monde professionnel du monde vraiment de leur vie.
Oui, mais il ne faut pas opposer humilité et expérience personnelle. Il y en a qui auront du mal à le faire parce qu'ils n'aiment pas parler d'eux-mêmes. Mais on va justement les aider à transformer leur expérience personnelle en éléments de langage, d'échange avec l'audience qu'ils auront en face d'eux, pour que justement ils deviennent, qu'on ait envie de les suivre, quoi, qu'on ait envie de partir avec eux pour qu'ils accrochent leur interlocuteur, quoi. On sait qu'il suffit de quelques minutes, d'autant plus votre génération à vous, pour lâcher, quoi, pour pas vous intéresser, parce qu'on vous habitue à consommer du visuel, du storytelling qui est extrêmement court. Des fois, c'est même qu'un slogan, c'est même qu'une phrase. Vous rentrez ou vous rentrez pas. Alors imaginez, quoi, je veux dire, un investisseur ou un futur employé ou un partenaire à convaincre. Vous avez peu de temps pour bien le faire, quoi. Donc, allez à l'essentiel, quoi. Il ne s'agit pas de raconter sa vie. Il s'agit tout de suite d'accrocher quelqu'un, quoi. Et des fois, il faut être disruptif. Il ne faut pas avoir peur de l'être.
Du style.
Du style, poser tout... C'est vous qui posez une question. Vous interpellez votre interlocuteur en lui posant vous-même une question. Mais il faut que la question soit bien pensée avant, quoi. Hein. Parce qu'un investisseur, il ne s'attend pas à ça, quoi. Hein. Vous commencez votre discours par leur poser une question.
Donc le but, c'est de la déstabilisation d'investisseur.
C'est de créer la tension. C'est de créer de la tension vis-à-vis de vous. Je veux dire, un investisseur, il est soumis à de multiples rendez-vous à la suite avec de jeunes start-upers qui ont tous une idée magnifique. Donc, il y a un phénomène d'usure, etc., de routine. Si vous ne cassez pas cette routine d'une façon ou d'une autre, en fonction de ce que vous ressentez vous-même, hein, il ne s'agit pas de vous trahir personnellement, quoi, puis de vous transformer en ce que, de toute façon, sur la durée, vous n'allez pas pouvoir tenir en termes de personnalité. Donc, il est extrêmement important que ça corresponde aussi à quelque chose qui résonne en vous, quoi. Donc, si vous avez de l'audace, un peu de courage, un peu de culot, etc., il faut essayer d'être disruptif pour casser le discours habituel qu'on peut servir à ce genre de personnes.
Alors, revenons de façon très pragmatique sur le storytelling. Quels sont les éléments de la vie personnelle qui peuvent vraiment jouer un rôle de levier dans la communication institutionnelle ?
Des éléments de la vie personnelle qui vous ont touché et qui vont toucher votre cible. Vous parliez tout à l'heure de ce qui a pu arriver à votre mère, votre grand-mère... en référence à des choses qui peuvent être inventées ici ou pas. Mais voilà, tout ce qui va vous toucher, qui a déclenché, je dirais, une authenticité chez vous pour apporter une réponse, pour apporter une réaction à ce que vous avez pu constater. Donc voilà, mais il faut aussi que, par rapport à l'émotion que vous avez ressentie, qui vous a amené à, derrière, il y a une compétence. Il ne s'agit pas uniquement d'avoir une réaction émotionnelle à un événement de votre vie. Il faut que derrière, il y ait une compétence qui se déploie, quoi. Parce qu'à un moment, il va falloir vous expliquer ce que vous proposez. Donc, mais derrière, il faut qu'il y ait une compétence, pas simplement une émotion. Donc il y a l'alliance des deux. Et ça, c'est extrêmement important pour être crédible.
Vous parlez de crédibilité. Un jour, peut-être que vous faites un faux pas. C'est-à-dire que vous allez un tout petit peu loin. Comment est-ce que ça se corrige ? Est-ce que ça se corrige ?
Ben, quand on fait un faux jour... pas, quand on fait un faux pas, il faut le reconnaître. C'est-à-dire qu'il faut... Là, l'humilité de dire, bah, écoutez, voilà.
Mais ce qu'un doute peut être corrigé.
Oui, un doute peut être corrigé si on le reconnaît avec humilité et que derrière, on émet plusieurs options possibles, plusieurs pistes pour corriger ce doute, quoi. On émet plusieurs... Mais il ne faut pas avoir peur d'être peut-être sur des hypothèses et non pas des certitudes. Les gens qui viennent qu'avec des certitudes, au final... Le message, il passe pas très bien parce qu'on se dit, voilà, alors lui, il sait tout. Il a que des vérités définitives sur tout. Donc, ça peut bloquer. J'ai été du côté des investisseurs et je sais que dans certains cas, ça a pu bloquer, quoi. Donc, n'ayez pas peur de partager vos doutes, vos interrogations, vos questions, vous-même que vous avez, soit sur le marché, l'évolution du marché, soit sur peut-être certaines limites de votre produit et tout. Faut être le plus authentique et le plus sincère possible.
Un deuxième volet qui est important, le plan com. Comment est-ce qu'on fait pour communiquer quand on n'a pas d'équipe de communication ? Ou on ne peut pas se la payer ?
Alors, si on ne peut pas se payer une équipe de communication, et ce que je comprends pour des startups, l'important c'est qu'on soit bien clair sur ses valeurs, ses missions et là où on veut aller, quoi. D'abord pour votre communication interne, Moi, je conseille toujours à des jeunes start-upers de s'écrire une espèce de manifeste avec vos valeurs, vos missions, vos objectifs, pour que ça soit partagé d'emblée par les gens qui vont vous rejoindre. Parce que si vous ne faites pas ça, il vous manque quelque chose, quoi. Et puis, la première chose, c'est que ça va être un excellent exercice pour vous de mettre noir sur blanc ce que sont vos missions, votre vision et le cap que vous voulez tenir, quoi. Ça, c'est extrêmement important. Ensuite...
Donc, ce sont vraiment les piliers du plan com.
Ouais, c'est vraiment les piliers du plan com. Ça, c'est vraiment essentiel et c'est ça qu'il faudra partager de toute façon avec les différents interlocuteurs que vous allez avoir. Et puis après, une fois que vous avez fait ça, essayez de dégager les messages clés de vos intentions, de votre produit, de la solution que vous allez proposer. Les messages clés qui sont liés à ça. Et à partir de là, vous avez déjà fait, une fois que vous avez aussi déterminé les cibles, donc pour qui, pourquoi ça c'est la mission, mais pour qui c'est vraiment les cibles, comment, c'est-à-dire les canaux adaptés à votre communication, essentiellement pour vous, en tout cas dans un premier temps, c'est d'avoir une bonne com LinkedIn.
Alors peut-être avant de parler des canaux, encore quelques questions. Pour une start-up, la start-up est toujours en train d'évoluer. À quelle vitesse peut-on faire évoluer ces trois piliers de la communication? Alors ça, sans donner l'impression de dispersion.
Ouais, alors ça, tout dépend du rythme de croissance de vos idées de votre start-up. Je veux dire, à chaque échéance importante, vous devez avoir une communication qui correspond, quoi. Et sur les réseaux professionnels concernés, parce que l'idée, c'est d'aller directement sur les cibles qui vous intéressent, quoi.
Si je parle de ça, c'est simplement, je me rappelle encore de ce livre qui avait été écrit par l'ancien CEO de Nestlé, Helmut Mara, qui disait « Ne pensez pas à changer vos slogans trop souvent, parce qu'au moment où vous allez le changer, ils ne sont pas encore dans la tête de vos locuteurs. » Et ce qu'il voulait dire par là, c'est que les services com sont des créatifs, ils changent, ils évoluent, etc. Sauf que la distance entre le message qui est passé et le message qui est perçu prend beaucoup de temps.
C'est énorme et c'est essentiel parce que nous, vous avez les mains dans le moteur, la tête dans le guidon, mais vos interlocuteurs, c'est pas du tout effectivement au même rythme qu'ils fonctionnent. De perception. Donc il y a toujours un décalage dans le temps entre effectivement ce qui aura peut-être demandé plusieurs mois, plusieurs années de recherche en termes de slogan, de positionnement de communication et tout, et la façon dont le marché va percevoir. Il y a toujours un décalage de temps énorme. Décalage qui s'est réduit avec l'émergence des réseaux sociaux et tout ce qu'on voit aujourd'hui en termes de communication digitale. Mais il y a quand même toujours, effectivement, il avait raison, il y a toujours un décalage de temps auquel il faut s'adapter.
Quelles sont les priorités que vous fixez entre une partie que j'appellerais branding, une partie qui s'appellerait de la visibilité produit, de la communication institutionnelle? Comment vous les séparez? Comment vous les mixez? Comment vous assurez une cohérence?
La cohérence, elle est d'abord sur la première étape, c'est-à-dire la détermination du contenu. Ça, c'est essentiel. Donc, une fois que vous avez rédigé votre contenu, c'est-à-dire les messages, les éléments de langage que vous allez partager avec ces différentes cibles, ensuite, il faut aller clairement identifier les différentes cibles que vous avez, que ce soit investisseurs, partenaires, employés, voire même presse professionnelle, parce que dans un premier temps, la presse généraliste, sauf si vous avez une idée qui va révolutionner le monde, mais c'est plutôt la presse professionnelle dans les secteurs qui vous concernent qui va s'intéresser potentiellement à vous, sachant qu'on conseille plutôt d'aller sur des contributions plutôt que d'attendre que le journaliste vienne parce qu'il ne viendra jamais. Donc c'est plutôt des contributions, des tribunes, ce genre de choses-là, voire même des réponses à des papiers qui existent. Là, vous pouvez faire des commentaires et c'est assez bien tracé. Et puis après, une fois que vous avez fait ça, après, il y a vos propres outils. Vous avez un site web et tout. Il n'y a pas besoin de faire 12 pages, mais voilà, un site web de 3 pages, c'est parfait, avec un scrolling très simple et tout. Et puis après, en fonction de ça, voilà, on essaye de saisir toutes les opportunités qui sont possibles à saisir, quoi. C'est-à-dire qu'on va regarder partout en termes de salons, de prise de parole et tout, d'intervention sur des forums. Il faut qu'on vous entende.
Mais pas trop.
Mais pas de manière inopportune. Il ne s'agit pas sur LinkedIn d'aller mettre des posts tous les jours. Ça, ça n'a aucun sens. Parce que là, on vous perd au bout d'un moment. Un par semaine au début de du lancement de votre entreprise, c'est bien. Mais il faut qu'il soit bien pensé. Et puis n'hésitez pas, parce que les coûts ne sont pas très importants, à booster ces messages, quoi. Aujourd'hui, maintenant, il y a des campagnes sur ces réseaux sociaux qui sont extrêmement ciblées. Vous êtes sûr que vous atteignez les fonctions. Si vous voulez, le mec responsable du bureau d'études dans tel secteur, dans la medtech américaine ou j'en sais rien, vous ciblez ces gens-là, quoi. Qui ont ces fonctions-là et ils vont recevoir votre message. Donc, ils vont être tagués, ils vont recevoir notre message grâce à ces campagnes. Et ce n'est pas des budgets énormes, ce n'est pas des budgets très importants.
Alors, reprenons là, vous parlez d'un premier canal, vraiment ouais. Les réseaux sociaux. Votre message, c'est de dire n'inondez pas LinkedIn, mais pensez à avoir des posts qui soient percutants, peut-être une fois par semaine. Si vous n'avez pas un message par semaine, il vaut mieux ne pas publier ou publier quelque chose qui est en dessous de ce que vous pourriez faire?
Il vaut mieux ne pas publier, mais intervenir sur des publications existantes qui sont dans votre paramètre. C'est-à-dire sur d'autres pages, vous allez, et ça on le voit souvent, et on s'intéresse souvent, même plus aux gens qui font des commentaires avisés et pertinents qu'au message lui-même. Ça vous est certainement des fois arrivé. Vous voyez un commentaire, vous dites, qu'est-ce qu'il dit lui là? Ah ouais, ça me paraît intéressant ce qu'il dit le gars là. Donc vous rentrez en contact avec lui. Nous, ça nous est arrivé, on commentait un sujet d'actualité, on balançait un commentaire, et puis les gens nous contactaient directement par rapport à la nature et au contenu de ce commentaire.
Mais si vous le faites, vous n'êtes pas dans votre flux.
Non.
Et donc, en gros, les personnes qui voudraient savoir sur quoi vous exprimez ne vont pas trouver ce commentaire.
Ils vont revenir sur vous. Mais s'ils s'intéressent, si ça fait partie d'une très large communauté qui est déjà existante et qui vient communauter une news... là, vous êtes identifié sur une large communauté parce que la personne, de toute façon, va arriver chez vous en s'intéressant à votre commentaire.
Si on parle de façon un petit peu plus métrique, vous lancez un post sur LinkedIn, vous devriez avoir combien de lecteurs et combien de réactions? Pour vous, un post réussi, c'est quoi?
Tout dépend de l'échelle du sujet et surtout du secteur dans lequel vous évoluez, quoi. Donc,
mais là, on parle à une start-up qui
va s'exprimer. Dans quel secteur? Si c'est par exemple dans le secteur de la medtech, que je connais un peu, voilà, il faut quand même que ça se transforme en plusieurs centaines de, en tout cas d'impressions, quoi, au minimum. Sinon, l'impact est extrêmement limité, quoi. Donc, c'est pour ça que... Il faut que les sujets, que les tags, ça se fait pas tout seul, un post LinkedIn,
Donc vous parlez d'une centaine et pas de milliers. Un millier est déjà un succès par rapport à un post.
Non, pas pour une start-up. Une centaine pour une start-up qui est dans un secteur bien précisé, une centaine d'impressions, c'est déjà pas mal, quoi. Alors après, si vous avez des commentaires, des messages, etc., c'est que vous avez créé l'intérêt, quoi. Mais c'est rare, sauf, encore une fois, quand c'est des news qui sont sponsorisées. Donc on sait qu'on va toucher large. Là, les impressions, tout ça, les réactions sont plus nombreuses. Mais il faut investir un peu.
Certains investisseurs, ou plutôt certains entrepreneurs, s'expriment non seulement sur leur société, mais également sur des sujets très généraux. Est-ce que c'est une façon de capter l'audience ou est-ce que c'est simplement une voie de diversion?
Oui, mais si vous intéressez, que vous commentez des sujets qui ne sont pas directement liés à ce que vous produisez, il faut être pertinent. Parce que on a même qu'une fois l'occasion de faire une bonne impression. Et si vous sortez du bois puis vous venez faire un commentaire sur un sujet d'actualité qui n'est pas très pertinent, c'est aussi une prise de risque en termes d'image et de réputation. Donc là, on rentre dans l'e-réputation, et ça nécessite aussi une réflexion au préalable.
On parle de LinkedIn. Quels sont les autres canaux digitaux que vous suggériez pour une start-up?
Après, tout dépend du matériel que vous avez, mais si vous avez un excellent matériel visuel, vous pouvez aller sur Insta, hein, ça c'est possible.
Mais est-ce que ce sont des canaux qui sont suivis par les investisseurs?
Quelquefois, oui, à titre personnel. On a des fois des surprises là-dessus. Moi, j'ai plusieurs fois des gens qui m'ont dit « Mais j'ai reçu un truc sur Insta, mon Insta à moi, mon compte Insta qui m'intéresse en tant qu'investisseur. » Donc, il y a des croisements, il n'y a pas des silos, hein, tout n'est pas imperméable. Donc, il y a des croisements qui peuvent se faire, mais s'il y a des sites prioritaires à avoir, oui, c'est d'abord LinkedIn dans un premier temps. Je ne vais pas vous confier Facebook, hein, parce que Facebook, c'est la foire. Voilà, c'est... c'est un grand marché qui, malheureusement, n'est pas très thématique. Je le conseille si vous voulez faire une campagne politique. Si vous voulez vous présenter à la ville de Lausanne, pourquoi pas. Mais si vous voulez vendre votre start-up et votre produit, ce n'est pas la bonne cible. Après, il y a des réseaux qui sont propres à des milieux académiques, à des milieux, je dirais, scientifiques, où là, vous avez tout intérêt à vous à mettre en avant votre produit. Là, oui, vous avez intérêt à le faire, quoi.
Et de faire du multicanal natif.
Oui, aussi.
Donc ce n'est pas un problème que d'avoir le même poste qui va se retrouver sur les différents canaux sociaux.
Non, tout dépend du contenu du poste, encore une fois. C'est ça qui va faire la différence, quoi. On revient toujours, toujours et toujours à ça. Si, c'est pas la meilleure idée qui l'emporte, c'est celle qu'on s'est racontée. Donc, à partir de là, posez-vous toujours la question du contenu. Vous pouvez le challenger avec des outils. Vous pouvez le challenger que si vous n'avez pas les moyens de vous payer une agence de com, vous pouvez tout à fait le challenger avec l'intelligence artificielle, hein.
Et comment est-ce qu'on le fait?
On soumet son contenu à l'intelligence artificielle. Mais surtout avec l'intelligence artificielle, ne le faites pas qu'une fois. Reposez-lui 4, 5, 6 fois la même question. Vous verrez qu'il vous proposera des solutions différentes à chaque fois. Et vous prendrez la meilleure. Parce que c'est un très bon élève, ChatGPT, pour ne citer que lui. Mais c'est un très bon élève parce qu'il vous dit toujours que votre idée est magnifique. Mais il émet une petite réserve, puis il vous propose de tout changer finalement. Mais oui, c'est l'intelligence artificielle pour des start-upeurs, c'est un excellent partenaire.
C'est un canal. Un autre canal, c'est, vous l'avez touché rapidement, la presse.
Oui.
Comment est-ce qu'on l'aborde?
C'est le plus compliqué. C'est le plus compliqué parce que les rédactions sont de plus en plus réduites à cause de l'émergence justement du numérique, etc. Vous avez bien vu ce qui se passe avec les médias régionaux ici dans nos différents cantons. On est sur une rédaction qui est de plus en plus petite. Donc, il faut vraiment intéresser les journalistes avec des sujets qui soient vraiment performants. Donc, je dirais que pour vous, la presse généraliste, encore une fois, sauf si vous avez un sujet révolutionnaire. Mais si vous n'avez pas un sujet révolutionnaire qui va changer la vie des gens, ou que vous n'avez pas une levée de fonds qui va. Parce que souvent, dans la tribune, dans 24 heures, vous voyez. Ouais, telle start-up a fait 50 millions de levées de fonds. Là, ils en font un article. Mais sinon, faut vraiment s'orienter en termes de presse vers la presse professionnelle. Hein, il y a des presses qui s'intéressent à la recherche, qui s'intéressent le PFL a aussi ses supports de communication, par exemple, hein, qui mettent en avant justement les découvertes, ce genre de choses-là et tout. Donc, il faut aller vers eux. Mais pareil, eux
Mais
ne savent.
après, ce qui est important, vous parlez de l'EPFL, c'est que ce soit repris.
C'est
Parce que
ça.
si vous vous retrouvez seulement à l'EPFL, par contre, qu'une publication de l'EPFL soit reprise par la presse écrite ou reprise par les réseaux sociaux, c'est là véritablement que vous avez un impact, non?
Oui, exactement. Encore une fois, d'où l'importance de la qualité du contenu que vous allez proposer. Donc, passer par un communiqué de presse, vous n'avez pas grand intérêt parce qu'il a peu de chances d'aboutir. Donc les communiqués de presse qui sont repris sont de plus en plus, je dirais, rares. Il faut vraiment qu'il y ait une information et tout. Donc nous, c'est notre travail, c'est mon travail. Moi, j'appelle les journalistes qu'on connaît bien et puis on lui explique l'intérêt du sujet et tout. Parce que les communiqués de presse, ils en reçoivent 50 par jour, quoi.
Est-ce que
Donc,
c'est pas tout de même bien de les envoyer parce que comme ça au moins ils font partie des archives?
ouais.
Ou ça sert à rien?
Mais quel intérêt de faire partie des archives?
Simplement le jour où
Si ce
ils
n'est
ont
pas
besoin d'informations, ils vont vous chercher.
si ce n'est prendre de la poussière, mais bah, s'ils veulent retrouver une actualité sur un sujet qui vous concerne, ils retrouveront toujours votre communiqué de presse. Parce qu'ils sont
Mais si
stockés
vous ne l'avez pas
aussi.
fait, ils ne le retrouveront pas.
Alors, s'ils ne l'ont pas fait, effectivement, ils ne le retrouveront pas. Mais c'est à vous d'avoir un fil d'actualité aussi sur votre site ou des choses comme ça qui permettent de nourrir
Donc c'est plus
votre enfant.
intelligent de nourrir ses
Oui.
archives dans
Son propre
son
fil.
propre fil.
Et surtout sa page LinkedIn. Parce que. Une des principales sources d'information des journalistes, ça reste quand même LinkedIn. Pour tout ce qui est professionnel, ils vont beaucoup se renseigner sur ça. Donc, ils ont leurs propres sources d'information aussi, ils ont leurs propres canaux. Alors oui, ils googlent beaucoup, hein, ça c'est clair. Donc, si dans les phénomènes de recherche Google, ce qu'on appelle le SEO stratégie, voilà, c'est bien d'être bien référencé. Donc là, il y a des astuces pour avoir des mots-clés qui sont bien référencés parce que cette stratégie SEO de Google, elle obéit quand même à certaines règles qu'il faut connaître.
Vous parlez du relationnel avec les journalistes, c'est ce que vous faites tous les jours. Comment est-ce qu'une start-up, une institution peut commencer à établir un contact personnel avec ces journalistes ? Ils sont accessibles, ils ne sont pas ?
Ça dépend quel journaliste, dans quel média. Donc encore une fois, c'est là où le ciblage est extrêmement important. Je veux dire, un journaliste de l'Illustré, ça m'étonnerait qu'il s'intéresse à vous. Donc, sauf si vous faites travailler la reine d'Angleterre. Mais sinon, voilà, donc c'est vraiment le choix et le ciblage des bons médias, des bons journalistes qui doit conditionner ce contact ou pas.
Et la télévision, la radio ?
Bah, c'est encore pire. C'est-à-dire qu'eux, ils ont une sélection des sujets à faire qui est beaucoup plus drastique parce que voilà, c'est une information grand public et tout. Ils doivent faire une hiérarchisation dans leurs sujets, donc avec des choix qui sont d'autant plus, je dirais, exigeants. Donc tout dépend de la qualité du sujet que vous avez à partager avec eux. Alors après, il y a des émissions magazines très intéressantes sur la radio, voire à la télévision, où vous pouvez vous associer, mais encore une fois, il faut que vous soyez connu et que bah, pour qui vous sollicite, il faut que vous existiez. Or, pour exister, il faut avoir une qualité de contenu et un discours qui est intéressant.
Vous parlez du fait que vous contactez les journalistes. Est-ce que vous arrivez à influencer les journalistes, influencer la presse écrite et la presse audiovisuelle, ou est-ce que vous partez au même stade ?
Non, le mot influence est un peu fort. Un journaliste reste par nature indépendant. Donc vous pouvez l'informer, partager de l'information, partager aussi du background avec lui, en on ou en off, sachant que tout ce qui est en off a souvent de fortes chances de se retrouver en on. Donc c'est partager, c'est l'aider à sa connaissance des sujets. Nous, on travaille comme ça avec des journalistes. Nous, on a été de l'autre côté en étant journaliste, donc on sait comment fonctionne une rédaction. On respecte son indépendance. Par contre, on vient lui donner des éléments de compréhension de tel ou tel sujet qui peuvent être complémentaires à son information. C'est pour ça qu'aussi, de temps en temps, c'est eux qui nous appellent, parce qu'on est souvent le porte-parole, le représentant média pour de nombreuses entreprises ou événements. Donc, ils nous contactent et ils nous demandent des compléments d'information, ce qu'on fait volontiers. Donc, on est là pour apporter un petit peu du contenu aux journalistes en fonction des différents sujets, mais pas du tout pour... pas du tout pour l'influencer. On n'est pas des lobbyistes des rédactions. Ça ne marche pas comme ça.
À quel moment une boîte de communication peut vraiment faire la différence pour une start-up ? Et quand est-ce que l'on devrait l'engager ? Le plus tôt possible.
Le plus tôt possible. Je dirais le plus tôt possible, mais après c'est une question de moyens. Mais c'est un super exercice pour eux. Même s'il ne s'agit pas d'avoir un mandat à long terme avec une agence de com, mais au moins de se poser une fois et de réfléchir justement à sa mission, à ses valeurs et au message qu'on veut faire partager. Et la façon... J'ai trop connu de start-up qui avaient des produits magnifiques dans leur laboratoire, dans leur tiroir, etc., mais qui ne savaient pas, entre guillemets, le vendre. C'est-à-dire le communiquer et le partager. Encore une fois, je vous ai dit, hein, c'est pas la meilleure idée qui l'emporte, c'est toujours celle qu'on s'est racontée. Donc c'est là où vous n'êtes peut-être pas des spécialistes, vous êtes peut-être hyper brillant dans votre domaine de compétences, mais vous n'êtes pas des spécialistes de la com. Pas tous en tout cas. D'où l'importance que, comme quand on se prépare pour un marathon, il faut aller s'entraîner. Bah, quand on se prépare pour une prise de parole, quelle qu'elle soit, il faut s'entraîner. Pour être sûr que le contenu qu'on va faire passer et la forme qu'on va mettre au passage de ce contenu soit la bonne. Donc n'hésitez pas, c'est pas non plus des budgets délirants, à vous poser avec un conseiller en com et tout qui va vous aider à ce qu'il y ait un lever de rideau qui soit en votre faveur.
Vous avez souvent énoncé le fait que le réseau joue un rôle qui est essentiel. Et ça me rappelle que ce qui est souvent dit, c'est que la meilleure des promotions, ce n'est pas celle que vous faites, c'est celle qui est faite par d'autres pour vous. Comment est-ce qu'on arrive à cela ?
Absolument. Si c'est les tiers qui parlent le mieux de vous et de votre produit et de votre activité, c'est gagnant-gagnant, quoi. C'est encore mieux, quoi. Donc ce qu'il faut, c'est effectivement, dans votre réseau et surtout dans votre réseau le plus proche, il y a une véritable conviction que ce que vous faites est bien fondé et que ça va apporter une valeur ajoutée sur les marchés qui vous concernent. Quoi.
Et la première partie de ce réseau, ce sont les personnes qui travaillent au sein de l'entreprise.
Exactement. Vos premiers porte-parole, vos premiers ambassadeurs, ce sont les gens qui travaillent avec vous. D'où l'importance que vous partagez avec eux dès qu'ils rentrent chez vous, ou avant même qu'ils rentrent chez vous, pour les convaincre de venir chez vous, mais que vous partagez avec eux votre manifeste. Et ça c'est vraiment essentiel, parce qu'effectivement, c'est les premiers qui vont parler.
Et comment est-ce qu'on fait cela ?
Ça passe par justement du...
Malheureusement, c'est pas de la conviction, c'est de l'empathie.
Mais malheureusement, le chef, le manager d'une start-up, il considère souvent que c'est secondaire tout ça. Tout ce qui relève de la com, etc., du contenu et tout, c'est un peu secondaire, quoi. L'important, c'est justement ce qui peut être le concept, ce qui va développer et tout, et la capacité de trouver des financements, d'avoir les moyens de développer son idée, quoi. Mais ça passe par la com, quoi. Vous pouvez avoir le meilleur produit du monde, si vous ne savez pas le vendre, ça devient très compliqué, quoi. D'où l'importance de consacrer, ayez le courage de consacrer un peu de temps à ça, quoi.
Et comment est-ce qu'on peut le gérer ? Parce que parfois, les managers essayent de réunir les équipes. Les équipes, soit elles sont intéressées, soit elles sont moyennement intéressées parce qu'elles voient comme un dérivatif par rapport à leur activité quotidienne. Comment est-ce que vous arrivez à faire en sorte que vous teniez à la fois envie, que vous apportiez les arguments pour que ces ambassadeurs, que sont les employés, puissent les faire valoir, sans, disons, obtérer, disons, leur travail ?
Parce qu'il faut qu'ils... Ils arrivent à considérer, et c'est par ce genre d'échange qu'on a aujourd'hui, qu'ils arrivent à considérer que c'est extrêmement important, quoi. C'est-à-dire que nous, on leur fait à travers des exercices la démonstration, soit un, que leur façon de vendre leurs produits n'est pas le bon, c'est un moment difficile pour eux, mais il faut passer par là, soit que les équipes qu'ils ont autour d'eux, quand on fait des exercices collectifs de communication et tout, on s'aperçoit que le manager, il est tout à fait convaincu et il est convaincant, mais qu'autour de lui, ses employés ne le sont pas. Parce qu'ils n'ont pas compris aussi bien que le manager le discours à tenir pour convaincre. Donc c'est là, nous, on aide à ce qu'il y ait une cohérence et ce qu'il y ait une pertinence justement dans la prise de parole, à tous les niveaux de l'entreprise. Donc c'est un exercice collectif qu'on fait dans les entreprises où il doit y avoir une adhésion collective aux missions de l'entreprise, mais surtout à ce qu'elle vend, quoi.
Est-ce qu'il y a des exemples qui sont suffisamment convaincants pour qu'on puisse les nommer comme exemples de communication réussie pour des petites entreprises, des start-up ?
Tout dépend encore une fois de la qualité du produit et encore une fois de...
Mais là où vous êtes dit, waouh, c'est juste incroyable.
La qualité du... Des exemples de petites entreprises, c'est un peu malheureux pour nous parce que nous, on travaille qu'avec des grosses.
Alors prenez des moyennes et des grosses.
Et on fait beaucoup de gestion de crise. Donc on arrive, tu vois, quand le mal, il est un peu fait. Mais sur des exemples de communication réussie quand on a traversé des moments difficiles ou pour rebondir et tout, c'est difficile à évoquer parce que c'est quelquefois des clients ou
d'autres. Alors prenons même de façon plus personnelle.
D'autres qu'on observe, mais voilà.
Des communications sur lesquelles vous êtes vraiment fier de l'avoir réussi.
Mais quand on voit ce qu'avait fait notre ami Hayek à la tête de Swatch et tout, en termes de communication, enfin, c'est énorme.
Mais on communiquait sur Hayek ou on communiquait sur la SSMH ?
Mais parce que lui incarnait complètement ce virage qui a été pris, cette initiative innovante pour le Swiss Made horloger.
Mais est-ce que ce n'est pas un risque ? Parce que si la personne disparaît, tout d'un coup, tout s'écroule. Est-ce que le message doit être pris et porté par la société ou par la personne ?
Le problème, c'est que justement, quand on a une personnalité aussi forte à la tête d'une société, c'est difficile de prendre la suite. Et je vous ai cité un exemple. Ça n'a pas été facile de prendre la suite de ce monsieur. Et dans d'autres entreprises, c'est aussi valable. C'est pour ça que l'incarnation trop personnelle et exclusive d'une entreprise à travers une personne, effectivement, il y a un risque.
Est-ce que l'investisseur le voit comme positif ou négativement ? Parce qu'en fait, il peut se dire, finalement, cette entreprise est incarnée par son fondateur. Si le fondateur part, tout s'écroule. C'est-à-dire que la communication ne pourra pas être aussi efficiente. Et dans ce cas, il pourrait vouloir mitiger la visibilité de la personne qui est pourtant le fer de lance de la société, ne serait-ce que pour assurer la pérennité de son entreprise.
Ouais, mais alors l'investisseur, une fois qu'il est convaincu du bien fondé du produit, de votre démarche et tout, il va d'abord lui regarder l'opportunité de marché.
Et ils vont.
Exact. Donc c'est là où voilà, le niveau personnel de la conviction est important au départ, mais après, il y a la réalité de ce que va pouvoir rapporter ce produit en termes de positionnement sur le marché. Donc là, il y a une question de confiance, il y a toujours une forme de pari, de toute façon, et je dirais que l'intensité d'adhésion à votre challenge, à votre pari, va se faire à travers ce que vous représentez, mais surtout par rapport à la valeur de votre produit sur le marché aussi, quoi. D'où l'importance que les bons messages passent pour que votre interlocuteur, investisseur ou autre, ils disent: ah ouais, là il y a une opportunité, là il y a quelque chose sur lequel on peut peut-être prendre un risque limité, mais on peut prendre un risque, quoi. On peut peut-être y aller, quoi. Et ça peut déclencher effectivement l'investissement.
Un conseil pour terminer?
Le conseil pour terminer, c'est de ayez, je sais que c'est pas toujours facile, mais à chaque fois ça s'est avéré payant. Prenez le temps de réfléchir à vos messages, à votre positionnement, à votre mission et à vos valeurs. Prenez le temps de le faire. C'est un exercice qui apparaît comme ça, un peu presque philosophique, hein, quand on parle de valeurs et tout. C'est un peu de la tarte à la crème aujourd'hui. Et puis on aligne les poncifs et les déclarations d'intention. Justement, nous, notre intervention, c'est justement d'éviter qu'on tombe justement dans des poncifs et des choses qui soient uniquement déclaratifs ou intentionnels. C'est facile de dire je veux, machin, etc. Donc nous, derrière, on essaye de donner du corps à ça, du crédit. Donc si un seul conseil à vous donner, c'est prenez ce temps-là pour vous asseoir, poser un peu tout ça sur la table. Quels sont les messages? Quel est le contenu que je veux partager? Est-ce que j'ai raison de vouloir le partager comme ça? Est-ce que j'ai raison de mettre ça en avant plutôt que ça dans ce que je veux proposer? Parce qu'un avis et un œil extérieur vous dire: mais attends, l'essentiel de ta valeur ajoutée, elle est là. Pourquoi c'est pas ça que tu mets en évidence par rapport à ça, quoi? Or, vous vous êtes peut-être jamais posé cette question parce que vous êtes convaincu que la ligne à suivre, c'est ça. Donc, ce qui veut dire que il faut t'entendre faire preuve aussi un peu d'humilité par rapport à ce qu'on conçoit et avoir le courage de le confronter déjà en petit comité à d'autres personnes, dont des gens dont c'est le métier, c'est-à-dire des communicants peut-être.
Et quand vous parlez de communiquer et de le partager avec un premier cercle, est-ce que c'est ses employés?
Ah ben ça, c'est le point. Je
Ou
dirais,
est-ce
c'est le
que...
premier cercle à convaincre, mais d'abord, c'est d'être convaincu soi-même que les messages qu'on va passer sont les bons. Parce que souvent, on pense que c'est secondaire ou c'est pas une priorité pour soi de réunir régulièrement ses équipes, de leur parler, de leur expliquer, voilà, tout le contenu et tout, mais ça l'est. Pour vous, c'est souvent pénible. Attends, faut encore que je fasse un staff meeting, faut encore que je fasse ci, fasse ça, alors que j'ai des priorités, alors qu'on m'attend sur telle et telle échéance et tout. Eh ben non, c'est prioritaire. Plus vous ferez ça, moins vous serez seul. Moins vous serez seul, plus, comme on l'a dit tout à l'heure, vous serez convaincant, parce que vous élargirez votre zone d'influence, votre zone d'impact. Et ça, c'est aujourd'hui, c'est essentiel. Il y a des milliers de startups. Il y en a combien qui meurent avant même d'avoir existé?